C.I.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 5h.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France par ici les économies. Alors notre objectif chaque semaine, vous le connaissez, hein, vous redonner du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on va apprendre une langue étrangère sans casser la tirelire. Bonne pratique, association, application, aide publique aussi. On va tout vous dire avec notre invité. Bonjour Clémentine Brousse.
Bonjour Valère.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Vocable en version allemande. Hein. Je vous propose déjà de répondre à une première question, celle d'une auditrice.
Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, je suis ostéopathe et j'habite dans les Yvelines. Lors d'un voyage en Amérique latine, j'ai dû échanger avec les habitants, mais sans vraiment parler espagnol. Ça m'a donné envie d'apprendre cette langue, mais je me demande si c'est possible, quand on ne l'a jamais étudiée et sans avoir acquis les bases à l'école. J'aimerais bien avoir des astuces ou des conseils pour bien y arriver. Merci.
Alors là, Sophie va pouvoir nous écouter pendant toute l'émission, parce qu'on va en donner plein des astuces et des conseils, mais Clémentine, la question que je comprends, c'est aussi... Est-ce qu'on peut apprendre une langue en étant adulte alors qu'on l'a jamais étudiée à l'école ?
Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue. Certes, quand on est enfant, la plasticité cérébrale est plus élevée. Du coup, l'oreille est plus perméable. On a tendance à plus vite acquérir les sons. Mais il n'y a vraiment pas d'âge. Les adultes ont d'autres atouts. Par exemple, ils ont une meilleure compréhension des règles, notamment de grammaire.
Okay.
Ils assimilent plus vite. Souvent, ils ont une motivation plus importante parce qu'elle est liée justement à des voyages, à des défis personnels ou professionnels. Donc, quand on est adulte, on peut apprendre tout aussi efficacement, voire même plus rapidement au début.
Oui, alors c'est vrai qu'on a souvent cette idée que les enfants, vous savez, on leur parle 3 mois une langue étrangère et puis ça y est, ils la connaissent. Oui. Quoi. Il y a aussi ça. Et puis à l'école, on apprend aussi les grands principes. Mais ce que vous nous dites là, c'est que rien n'est perdu. Si on n'a jamais entendu parler d'une langue et qu'on a, mettons, 40 ans, on peut vraiment s'y mettre.
Tout à fait. En plus, plus on apprend de langues, plus on apprendra des nouvelles langues rapidement. Donc, si on en a appris d'autres plus jeunes, on aura tendance à...
Ah, c'est comme
vite.
Un muscle un peu, en fait.
Exactement.
Ah, c'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'on est si mauvais, peut-être que je me trompe, hein, mais pourquoi on est si mauvais en langue étrangère en France ?
Alors, on n'est pas si mauvais.
Ah bon, ok.
On est légèrement en dessous que la moyenne
européenne. Manière gentille de le dire.
Mais c'est souvent qu'on est moins à l'aise à l'oral. En fait, on a plus tendance à avoir peur. Ça vient notamment du fait que le français a longtemps été une langue, une grande langue internationale. Donc, c'est sûr que les pays nordiques ou les petits pays qui ont des très bons taux de multilinguisme sont meilleurs. En France, on voit que chez les jeunes générations, il y a un meilleur niveau de langue, notamment en anglais. Il y a de plus en plus de séjours à l'étranger, d'échanges scolaires, d'Erasmus. Et récemment, Internet et les réseaux sociaux qui augmentent aussi fortement l'exposition aux langues.
Ok, très clair. Bon, cela dit, c'est vrai que quand on entend parler en français anglais, nous on a un peu honte, par exemple, mais les Anglais, ils adorent ça, l'accent frenchy, non, quand on parle leur langue.
Tout à fait. Donc le problème, c'est plus un problème de confiance à l'oral. Ouais. Il faut oser.
Ok, on va essayer d'oser. Pas forcément aujourd'hui et maintenant, hein, je m'y mettrai après. Qu'est-ce qui peut nous motiver alors à apprendre une langue étrangère ou à se perfectionner, notamment quand on est devenu adulte, c'est quoi le moteur ?
Tout d'abord, il peut y avoir des objectifs professionnels quand on est adulte. Mm-hmm. Par exemple, passer une certification, vouloir partir travailler à l'étranger ou alors viser des postes avec des responsabilités managériales ou à dimension internationale. Ensuite, il peut y avoir des objectifs personnels, donc bien sûr partir en voyage, mais aussi découvrir une nouvelle culture. Et enfin, apprendre une langue, ça permet de travailler la mémoire. Comme on disait, c'est un muscle, ça travaille l'activité cérébrale, donc ça peut être un bon hobby, en fait, un bon passe-temps.
Ouais, voilà, un passe-temps, tout simplement, le plaisir d'apprendre. Puis on aime bien parfois une culture étrangère. On a fait un voyage quelque part, on se dit, j'ai vraiment envie d'apprendre cette langue, c'était merveilleux, etc. Ouais. Clémentine Brousse, donc vous êtes rédactrice en chef du magazine Vocable, hein, pour la version allemande. Peut-être nous rappeler comment fonctionne ce magazine, c'est un format un peu particulier ?
Alors, Vocable, c'est un magazine mensuel pour apprendre les langues étrangères. Il existe en 3 éditions, en allemand, en anglais et en espagnol. Et l'idée, c'est qu'on sélectionne les meilleurs articles parus dans la presse étrangère. Comme ça, les articles sont en VO et les mots difficiles sont traduits en français. Les articles sont toujours contextualisés, donc on met des petits repères historiques, culturels en français. Et à la fin des articles, il y a des quiz de compréhension. À cela s'ajoute tout un panel de ressources, audio, podcast, vidéo. Et puisqu'on est sur les bons plans, l'abonnement est à 4,50€ par mois.
Ah ben voilà, 4,50€. Parce que là, le prix, c'est 6,70€, je vois. Mais ça, c'est quand on l'achète en kiosque.
Tout à fait.
Et sinon, c'est 4,50€ par mois. Le site, c'est vocable.fr pour en savoir plus. Parce que c'est une solution, notamment, pour apprendre ou se perfectionner dans une langue. Donc, vous avez dit espagnol, anglais et allemand. Hein, c'est ça, les trois langues. Voilà. Et vous, vous occupez en particulier de l'allemand. Clémentine, parmi les freins à l'apprentissage d'une langue, il y a souvent le prix, justement, hein, que ça peut représenter. Est-ce qu'il faut forcément payer cher si on veut une méthode qui marche?
Alors non, il existe de plus en plus de ressources gratuites, notamment dans les bibliothèques, les instituts culturels, aussi sur Internet, les réseaux sociaux, les applications. Donc on peut pratiquer aussi avec un correspondant qu'on trouve gratuitement en ligne. Donc il y a plein de ressources gratuites.
Alors c'est vrai qu'il y a plein de ressources, plein de méthodes aussi, Maline, et on va en parler pendant toute cette émission, justement pour vous aider, vous qui nous écoutez, à progresser ou à apprendre une langue sans casser la tirelire. Mais comment savoir celle qui va nous correspondre le mieux? Est-ce qu'il y a des prérequis, notamment? C'est-à-dire, comment se situer par rapport à toutes les méthodes, justement, qu'il existe?
Alors, on retient toujours mieux ce qui nous intéresse. Donc, le but, c'est d'aller chercher une méthode où on ne va pas se lasser au bout d'une ou deux semaines.
Ouais.
La clé, c'est vraiment la régularité. Donc, trouver une méthode voilà, qui nous intéresse. Si on aime la culture, plutôt viser des choses cinéma, théâtre. Si on aime l'actualité, économie, politique. Et non, il n'y a pas de prérequis. On peut apprendre une langue, on a dit, à tout âge, qu'on n'a jamais apprise. Voilà. Et adapter aussi facilement dans notre emploi du temps. Par exemple, si je fais de la voiture tous les jours, essayer de trouver une méthode, par exemple, 100% audio, comme Michel Thomas ou Assimil, qui sont des CD qu'on peut mettre 10 minutes dans la voiture. Si on prend le métro, peut-être quelque chose sur le téléphone.
Ok, donc trouver aussi une fenêtre de tir, parce que la régularité, si je comprends bien, c'est ce que vous nous dites, c'est très important, en fait, pour que ça s'ancre et qu'on rentre dans un processus d'apprentissage, logiquement.
Tout à fait. On peut. La clé, c'est la régularité. On n'a pas besoin de passer 2 heures par jour, mais 10 minutes tous les jours de manière assidue, ça fonctionne.
C'est vrai, on progresse. 10 minutes par jour, ça marche.
Oui, tout à fait.
Ah ouais, ça c'est quand même plutôt encourageant. Justement, on va ouvrir le chapitre des applications numériques, Clémentine Brousse. Duolingo, Practica. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. On peut apprendre une langue pour moins de 10€ par mois. Donc, si on est dans ce prérequis de la régularité.
Tout à fait. Il y a des applis de tout type qui sont très différentes en fonction du niveau qu'on a de base, du coût qu'on veut y mettre, parce qu'il y en a des gratuites, des payantes. Par exemple, Duolingo, qui a une version gratuite, qui est très bien, très accessible quand on veut débuter. Ensuite, il y a peu de contexte culturel et peu de phrases complexes. Donc, si on est plus avancé, on peut se tourner vers d'autres applications, comme Babel, qui propose des cours très structurés, mais qui a une version payante. Ensuite, on a des applications gratuites comme Tandem ou HelloTalk, qui permettent des échanges directs avec des locuteurs natifs. Donc là, on est moins sur des cours structurés, mais vraiment sur la pratique. Et ensuite, on a aussi Practica, que vous avez cité, qui est plus, alors qui est très innovante. Je crois que vous l'avez testée.
Ouais. Moi, je l'ai testée. J'ai essayé Duolingo et Practica. Duolingo, c'est plutôt mon fils qui a bien aimé, qui a 9 ans. Lui, il aime bien Duolingo parce qu'il y a des parcours, des petites récompenses, etc. Et je pense que pour un enfant de 9 ans, ça marche bien. Et moi, Practica, j'ai bien aimé parce qu'il y a ce côté intelligence artificielle avec un avatar et j'avais l'impression de converser avec quelqu'un, avec la possibilité de digresser parfois dans la conversation, et ça marchait assez bien.
Oui, tout à fait. Donc, qui est basé sur un échange avec l'intelligence artificielle et qui, du coup, s'adapte vraiment à notre niveau, les centres d'intérêt, etc.
Ouais, moi, j'ai trouvé ça pas mal et c'est vrai qu'on est sur ces applications à une dizaine d'euros par mois. Et ce que je retiens, hein, et ça me paraît hyper important, c'est que donc, oui, vous dites, on peut apprendre une langue finalement pour 10 ou 15 euros par mois à condition d'avoir trouvé le bon modèle pour nous et d'être régulier vraiment au quotidien.
Oui, après, il faut pas oublier qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre sa culture, son histoire. Et c'est là où ça peut être un peu la limite avec les applications.
Évidemment.
Et il faut essayer de trouver des méthodes pour pratiquer dans la vie courante.
Mais justement, il peut y avoir aussi une méthode, c'est de regarder des gens faire sur les réseaux sociaux. Alors là, il y en a, hein, ce qu'on appelle des influenceurs. Moi, je préfère les appeler créateurs de contenu. Bonjour Véronique.
Bonjour, enchantée.
Enchantée également, bienvenue sur notre radio locale ici. Alors vous êtes une prof d'anglais moderne, numérique, hein. Vous partagez des vidéos sur YouTube, ma prof d'anglais, c'est votre pseudo sur YouTube, 25 000 abonnés au compteur. Mais comment ça vous est venu cette idée de faire des formats comme ça sur Internet?
Alors, bah écoutez, déjà, merci beaucoup de me donner la parole, c'est très très gentil, moderne malgré les cheveux blancs, donc c'est ça, j'aime bien.
Non mais ça veut rien dire ça.
Mais non mais je trouve ça génial justement. En fait, c'est pas moi du tout qui ai eu l'idée, c'est mon fils, donc celui qui est le caméraman, et la petite voix off qu'on entend de temps en temps, qui m'en parlait depuis un bon moment, qui me disait « mais maman, il y a plein de choses à faire sur YouTube » et puis et sur YouTube, sur les réseaux, sur les différentes plateformes, Insta et autres. Puis je disais, écoute, il y a déjà plein de choses justement qui sont faites. Je vois pas ce que je pourrais apporter de plus. Donc je me sentais vraiment pas du tout prête à ça, pas du tout à l'aise. Et puis début juillet, là, cet été, à un moment donné, avant que je reparte en conseil d'administration au collège, il a tourné une petite vidéo et puis il l'a mise et puis ça a marché. Puis on en a fait une autre, puis deux, trois autres comme ça dans l'été. Et puis on a vu que ça fonctionnait, qu'il y avait un retour positif, même avec des choses sans prétention. Parce que voilà, mon but, c'est pas de... Je ne sais pas tout.
Ouais,
je ne connais pas tout à l'anglais. Voilà, c'est mon métier que de l'enseigner. Mais je ne suis pas la spécialiste de l'anglais. Il y a plein de gens spécialistes de beaucoup de choses. Mais voilà, ces petits formats avaient l'air de plaire. Il y avait des retours positifs. Moi, j'en ai été très, très étonnée, un peu émue aussi. Parce que c'est vrai que d'avoir des commentaires... qui sont bienveillants et très agréables, ça donne envie de se dire, enfin pardon, ça donne envie de continuer un peu. Donc on a continué comme ça et c'est vraiment le fiston qui m'a mis le pied à l'étrier, donc il m'a rendu moderne alors, on va dire.
Ouais, non mais en plus il y a une jolie histoire derrière, donc tout ça c'est parfait, ça habille encore mieux votre activité sur internet. Alors je suis allé regarder vos différentes vidéos et c'est vrai que j'invite les auditrices et les auditeurs à jeter un coup d'œil, donc c'est ma prof d'anglais, parce que il y a plein de tips, il y a plein de petites astuces, des points d'entrée très différents. Comment vous choisissez d'ailleurs vos sujets?
Alors, en fonction parfois des demandes des personnes qui envoient des messages ou des commentaires sur Insta ou sur TikTok et sur les autres plateformes, en fonction aussi parfois d'une idée que j'ai, je me dis tiens, ça pourrait être utile, ça peut être un petit point d'entrée. Et voilà, ça s'adresse à des personnes qui ont a priori quand même déjà un petit peu un bagage en anglais, le bagage scolaire, qui est largement suffisant, même si souvent nous en France, on se dit qu'on n'est pas doué pour les langues. Moi, je considère qu'on est tout à fait capable d'apprendre, de se perfectionner, quel que soit notre âge. Moi, j'ai des personnes qui me disent, j'ai 63 ans, je me remets à l'anglais, et je trouve ça génial d'avoir cette envie de se dire, l'apprentissage, oui, il est possible tout au long de la vie.
Véronique, je suis avec Clémentine Brousse, c'est la rédactrice en chef de Vocable en version allemande. Elle me disait exactement la même chose, vous me disiez la même chose il y a quelques minutes.
Tout ça fait, on a des abonnés qui ont 80, 85 ans.
Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue. Quel sera votre prochain thème, Véronique, alors sur YouTube?
Alors, le prochain thème, je me dis qu'on est début janvier. Et en général, que font les gens en début janvier? Les fameuses New Year's Resolutions. Donc, en fait, c'est pas tant l'idée d'inciter les gens à prendre des nouvelles résolutions, mais c'est quelles sont les différentes formulations langagières, les différentes structures langagières que l'on peut utiliser pour formuler ces fameuses résolutions du nouvel an.
Et c'est ça qui est chouette dans vos vidéos.
Du vocabulaire, mais surtout des petits points de grammaire, quoi. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que s'il n'y avait pas mon fils, je pense que je ne continuerais pas. Enfin, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais jamais fait ça toute seule.
Bon, et en même temps, Véronique, en même temps, sans vous, votre fils ne serait pas là non plus. Vous devez bien un petit truc comme ça, hein?
Oui, d'accord. Oui, non, mais nos enfants ne nous appartiennent pas.
Vous avez bien raison. En tout cas, c'est un beau partenariat. C'est un beau partenariat.
Ouais, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je lui parle comme si je parlais à mes élèves. Et c'est pour ça que ça me paraît, pour moi, quelque chose d'à peu près facile à faire. Pas parce que je suis en train de me filmer moi-même. Je ne serais pas à l'aise avec cette fonctionnalité-là. Mais je parle à mon fils et comme je parle à mes élèves, quoi. Donc, c'est génial. Je me vois comme si j'étais devant des gamins.
Et ça aide à être au naturel. Merci beaucoup, en tout cas, Véronique, d'être venue nous voir. En tout cas, parler avec nous. Ma prof d'anglais, donc, vous êtes sur YouTube. Merci. Et puis, longue vie à vous, vos vidéos, votre fils et ce beau partenariat. Clémentine Brousse, quelles sont les principales aides publiques pour apprendre une langue quand on est adulte et qu'on se sent pas d'aller sur les réseaux sociaux, sur Internet?
Alors oui, on le sait pas, mais il y a plein d'aides qui existent pour apprendre une langue, même quand on est adulte. Tout d'abord, il y a le CPF, le compte personnel de formation, auquel on cotise à partir du moment où on est salarié et qui permet de financer l'apprentissage d'une langue, que ce soit des cours en centre, en ligne ou alors des certifications qui après nous aident dans notre parcours professionnel. Pour les demandeurs d'emploi, il existe également des aides avec des formations gratuitement ou... Si c'est lié à un projet professionnel, on peut obtenir une aide personnalisée. Ensuite, selon le lieu où on habite, les CAF, les régions, les mairies proposent des aides avec les comités d'entreprise.
Donc, il y a plein de choses en fait. Là, il faut vraiment se renseigner. On va tout mettre sur ici.fr, sur la page de l'émission. Mais vous voyez, il existe des aides qui peuvent vous permettre de mettre le pied à l'étrier ou de vous renforcer dans une langue. Et là, avec du présentiel, parce que vous pouvez aussi préférer le présentiel pour apprendre une langue et ça se comprend bien. Un mot juste sur les films, les séries en version originale, ça aide, ça c'est vrai Clémentine ?
À 100%. Écoutez, le but c'est l'immersion. Donc écouter un film en VO avec les sous-titres en français, ça aide. Une astuce aussi, c'est d'écouter une phrase, de mettre pause et de répéter pour apprendre la prononciation, ça aide vraiment. Et ensuite, au fur et à mesure, on peut enlever les sous-titres.
Ah voilà, alors remettre une phrase, là il faut avoir un petit peu le temps quand même. Mais c'est une bonne idée.
Ici, avec Valère Coréard, par ici les économies.
Oui, on est en version magazine aujourd'hui, vous le savez. Le thème, comment apprendre une langue dans les meilleures conditions, comment s'y mettre, comment se renforcer. Je suis avec Clémentine Brousse, elle est rédactrice en chef du magazine Vocable en version allemande. Et alors, on va recevoir Maud Vuaya, fondatrice de English with Maud, qui vient de nous rejoindre alors avec une méthode sur mesure. Bonjour Maud.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Bienvenue sur votre radio locale ici. En quoi consiste votre méthode, alors English with Maud ?
Alors, on a envie de se remettre le pied à l'étrier, comme vous le disiez, en anglais et d'apprendre en autonomie, mais de tout apprendre, donc de tout reprendre. Et puis, pour les personnes qui me suivent ou qui me connaissent, avec ma voix, étant donné que ce sont des programmes aussi bien écrits qu'audio, donc il y a vraiment tout pour apprendre, pour entendre également, parce que c'est important quand même quand on apprend une langue.
Oui, et alors vous me l'avez dit en préparant votre venue sur ici, c'est important de s'inscrire aussi dans une méthode, dans un process. Ça s'improvise pas non plus d'apprendre une langue étrangère pour vous, hein.
Non, faut repartir des bases. Et puis c'est vrai que c'est pas facile à faire. Et quand on est maman, papa, qu'on a un travail, des enfants, on sait pas forcément par quoi commencer. Il y a tellement de choses aussi qui existent. Donc c'est vrai que moi j'ai créé ma méthode, mes programmes pour emmener les apprenants de A à Z. Donc ils savent vraiment par quoi commencer. Et puis ils suivent tout simplement les feuilles de route.
Voilà, donc vous, votre engagement, c'est que votre méthode marche, c'est approuvé, testé. Puis alors il y a beaucoup de monde qui vous suit, hein. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est cher de suivre votre parcours ?
C'est de qualité, donc oui, il y a un prix, il y a un tarif, effectivement, c'est un budget, mais comme tout ce qui emmène pour un meilleur futur, on va dire, aussi bien pour le travail que pour le plaisir. Je ne suis pas formatrice, donc c'est la question qui revient la plupart du temps et je ne compte pas le redevenir. Donc je suis très contente d'avoir mis à disposition mes programmes, on peut régler en plusieurs fois, sans frais.
Mais ça veut dire quoi, c'est un peu cher pour être concret ?
Alors, je sais pas trop, parce que mes clients qui ont fait toute ma formation disent que je suis vraiment pas chère par rapport à...
Ah bon, alors donnez-nous un montant.
Alors, le montant en ce moment, il est à moins 20%, donc ma formation intégrale est à 672€ en ce moment.
À moins 20%, donc. Voilà, spécial pour le magazine Par ici les économies, moins 20%, ça nous en prend toujours.
Ouais, il y a un code promo, dès qu'on arrive sur mon site, ça pop. Okay.
Eh bien écoutez, c'est noté en tout cas, et c'est vraiment une méthode qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux avec vous, Maud Vuaya. Vous êtes fondatrice de English with Maud. Merci beaucoup d'être passé par ici, ça nous a fait plaisir de vous entendre, et puis on va aller voir ce que vous faites, évidemment. Clémentine Brousse, vous êtes rédactrice en chef du magazine Vocable, en version allemande. Un petit quiz, le vrai-faux, avant de nous quitter, pour finir avec les idées claires sur ce thème de l'apprentissage d'une langue. Alors vrai ou faux, on peut apprendre une langue étrangère sans jamais avoir pris de cours payants ?
Plutôt vrai, on apprend en pratiquant, en s'immergeant au maximum, et si on fait des fautes au début, il faut oser les faire et elles disparaîtront petit à petit.
Vrai ou faux, les applications de langue gratuites peuvent suffire à devenir vraiment à l'aise à l'oral ?
Un peu plus compliqué, vrai et faux, elles permettent d'avoir des bases, de se présenter, d'avoir les grandes lignes, mais elles ne remplacent pas les interactions dans le monde réel.
Vrai ou faux, regarder des séries en version originale avec des sous-titres en français, ça ne sert à rien pour apprendre une langue ?
Faux, complètement faux. Regardez les séries en VO.
Vrai ou faux, il existe des aides publiques pour financer l'apprentissage des langues, même quand on est adulte.
Vrai, il y a toutes celles qu'on a citées, n'hésitez pas à vous renseigner au plus près de chez vous.
Et puis vrai ou faux, 10 minutes par jour, c'est trop peu pour progresser dans une langue étrangère.
Faux, la clé c'est la régularité, donc si on fait 10 minutes par jour pendant 3 ans, on aura bien plus progressé que...
Que jamais.
Merci
Clémentine Brousse pour vos éclairages. Rendez-vous sur vocable.fr pour découvrir votre univers. J'espère que vous y voyez plus clair, hein, vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici. Et pour écouter l'émission d'ailleurs, la partager avec vos proches, les faire profiter de cette mine d'infos pratiques au service de notre pouvoir d'achat, c'est sur ici.fr.
Ici.
Connais pas la crise. suis le trésor satiné. Mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles. La crise s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. L'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, garde-forme. Quand je vois se poindre les pyramides, nez, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise. La crise épanouie et l'exhibe des trésors satinés dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Ici, ici, vous écoutez ici.
Rien que nous, on était là, par amour comme toujours. Entre nous, c'était fou, on s'aimait là, rendez-vous pour toujours. Et moi, je rêve tous les soirs de toi qui prie, qui dit qu'il nous arrivera rien. J'envoie des prêtres aux yeux du ciel pour qu'ils nous voient.
Étoiles, on était là, maladresse d'autrefois. Sans savoir, sans y croire, on laissait là nos souvenirs d'autrefois. Et toi, tu rêves tous les soirs de moi qui prie, qui dit qu'il nous arrivera rien. J'envoie des braises qui vont au ciel et qui vont voir qu'enfin on.
sera toi à qui le tour, à qui le tour.
Écoutez, ici. Du podcast Ici, Pierre Bellemare, ses histoires extraordinaires.
Durant l'été 1949, une équipe de scientifiques parcourt la jungle à l'ouest du canal de Panama en Amérique du Sud, sous une chaleur accablante. Ils ont pour mission de déterminer les points géodésiques, c'est-à-dire les sommets et autres repères naturels dans la zone pour le compte des États-Unis. Au cours des premières semaines de l'expédition, les quatre chercheurs aventuriers ont appris à se connaître et à s'apprécier. Il y a là Ivor Smither, le chef du groupe, ingénieur de profession, son assistant, Al Pimental, pour qui les tropiques et leur imprévu n'ont pas de secret, Vargas, le responsable du portage, grand connaisseur des pistes de brousse, et l'Indien, son aide, dont la force semble incomparable. Après avoir passé plus d'un mois dans la jungle, les membres de la mission souffrent, hélas, de multiples infections cutanées. Ivor croit, en outre, déceler chez lui-même et ses compagnons de route les premiers signes avant-coureurs de la malaria. Pour le chef, la situation devient très préoccupante. En s'extrayant de son sac de couchage ce matin d'août, il prend une décision irrévocable. Il va demander par radio le rapatriement de son groupe par hélicoptère. La communication avec la base de la mission à Balboa, en Colombie, doit être établi le lendemain soir. C'est à ce moment qu'Ivor fera son annonce aux autres membres de la mission. En attendant, il veut avancer au maximum vers les objectifs qui leur ont été fixés en puisant dans les dernières forces de son équipe. Mais ce matin encore, celles-ci paraissent bien minces. Alors qu'Ivor avale la dernière gorgée de son café, Vargas et l'Indien traînassent, tandis qu'Al Pimental n'a même pas bougé de son sac de couchage. Tant de paresse et de mauvaise volonté agacent Ivor. Le chef appelle en hurlant son assistant pour le réveiller. Le jeune homme emmitouflé ne réagit pas. Ivor se rapproche à grands pas. Il raconte ce qu'il découvre. Arrivé tout près, je vois ses yeux hagards rouler éperdument. Je m'approche et l'entends murmurer dans un souffle « Serpent, serpent ». Mon regard suit le sien jusqu'à un renflement de son sac, juste au-dessus de son estomac. Le moindre geste brusque, le moindre tressaillement à l'intérieur du sac, et le reptile, se sentant en danger, attaquerait, sans nul doute, distillant son venin dans l'organisme déjà affaibli du pauvre Hal. Passé le choc, Ivor recule avec précaution. Il va informer les autres membres de l'expédition du danger imminent. Les trois hommes réfléchissent alors de concert. Que faire ? L'Indien suggère, pour déloger l'animal, d'envoyer de la fumée dans le sac de couchage par une fente coupée au pied. Cela peut réussir, à bon espoir Ivor. Et ce qui est dit est fait. Le serpent bouge en effet, mais retrouve rapidement sa place sur le ventre de Hal. Il faut trouver une autre solution. Utiliser une bombe insecticide en lieu et place de la fumée, propose alors l'Indien. Hélas, cela ne donne pas plus de résultats. Après s'être penché sur le problème pendant près de 6 heures, les membres de l'expédition commencent à croire que leur camarade ne s'en sortira pas. Le soleil maintenant est à son zénith. Hal semble avoir beaucoup de mal à ne pas bouger la tête alors que de grosses gouttes de sueur lui tombent dans les yeux. L'intérieur du sac doit être comme un four, pense Ivor. Et c'est alors qu'il se rappelle d'une règle apprise sur les serpents. Les reptiles ont le sang froid. La température de leur corps dépend de l'ambiance extérieure. Dans les endroits où règne une chaleur intense, ils s'échauffent comme une barre de fer. Et une demi-heure d'exposition au soleil tropical suffit pour les tuer. Il expose son idée aux autres. Ils vont enlever la toile imperméable tendue au-dessus du sac de couchage qui était censé protéger Hal des intempéries et laisser ainsi les rayons du soleil chauffer le duvet. Au bout de quelques minutes, Hal ruisselle littéralement. Le serpent ne bouge pas encore. À moins que... Ah si, ça y est. La masse ondule, se renfle, s'aplatit, puis progresse lentement vers l'ouverture du sac de couchage. Elle sort, en glissant sur le visage de Hal. Une fois remis de ses émotions, le rescapé expliqua qu'il avait passé non pas 6 heures, mais le double, soit 12 heures immobiles, le reptile s'étant invité dans son sac en pleine nuit. Fort heureusement, Hal était réveillé à cet instant. Sinon, il ne doute pas qu'il aurait bougé dans son sommeil, provoquant ainsi à son insu la morsure fatale du serpent.
Ici. Vous écoutez Ici.
Je me sens pas belle quand tu marches, t'es belle. Quand tu penses, pense à toi.
Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas.
Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois.
Toute la journée,
c'est ici. week-end, ICI vous fait écouter l'actu locale du bout du monde grâce aux médias francophones publics. C'est l'accent des autres.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine avec Radio-Canada, avec RFI, ICI, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et on va d'abord se pencher aujourd'hui sur une démission, Nadim Mubarak, celle du Premier ministre québécois François Legault.
La balle est désormais dans le camp de son parti, la Coalition Avenir Québec, qui devra lui trouver un remplaçant.
Des soldats africains qui combattent aux côtés des Russes en Ukraine, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Mathieu Vendrely, ce sont des images dures.
Oui, absolument, des images très dures où ces soldats africains sont qualifiés de soldats jetables. Ils seraient plusieurs milliers en Russie.
L'enquête se poursuit plus de deux semaines après le drame de Crans Montana en Suisse. Le propriétaire du bar qui a pris feu a été privé de liberté et les questions restent nombreuses, Pierre Anchoffa.
La mousse acoustique installée dans ce bar répondait-elle aux normes incendie? Les issues de secours réglementaires étaient-elles accessibles? Des questions clés auxquelles la justice doit répondre pour établir les responsabilités.
Il n'y aura pas de bovins cette année au Salon de l'agriculture à Paris. C'est une première, la faute à la dermatose nodulaire, trop de risques de contagion. Nous verrons ce qu'on en pense dans une exploitation dans le Vercors. Enfin, à propos du monde agricole encore, de nouvelles actions ont eu lieu cette semaine dans plusieurs pays et notamment en Belgique. À Bruxelles, les agriculteurs dénoncent toujours l'accord avec les pays du Mercosur, mais aussi de nouvelles règles environnementales, Jacques Crémers.
Oui, et cette fois, c'est le gouvernement wallon qui est visé. Ce que craignent les agriculteurs, c'est l'interdiction d'utiliser des pesticides ou des produits phytosanitaires près des zones de captage d'eau.
Une démission donc tout d'abord au Québec cette semaine, celle du Premier ministre François Legault. Une démission qui a provoqué une réelle secousse dans le paysage politique de la province, Nadi.
Voilà, François Legault quitte ses fonctions au moment où il est confronté à des intentions de vote famélique depuis des mois. À l'aube d'élections décisives en octobre, François Legault a donc choisi de céder sa place. Il avait pourtant assuré plusieurs fois qu'il voulait se présenter aux prochaines élections. Celui qui aura dirigé deux gouvernements majoritaires de 2018 à aujourd'hui avait ces mots pour les Québécois.
Chaque jour, je me suis levé en me disant je veux ce qu'il y a de mieux pour les Québécois. J'ai pas toujours réussi, mais je peux vous garantir que j'ai essayé très fort avec toute l'énergie que j'avais.
François Legault a aussi défendu son bilan économique et nationaliste avec l'adoption marquante des lois 21 sur la laïcité de l'État et 96 pour renforcer la charte de la langue française.
Et inévitablement, on a dit, les réactions suite à cette démission n'ont pas tardé.
Absolument, les partis d'opposition ont mis de côté la partisanerie pour saluer l'engagement politique de François Legault. Voici la députée solidaire, Ruba Gazal.
Il avait un côté quand même humain. On l'a vu, ça a beaucoup connecté entre lui et la population pendant la pandémie. Des fois, il y en a qui le disaient, ça pouvait avoir l'air positif, des fois péjoratif. C'est un peu comme le bon père de famille.
Le départ de François Legault suscite aussi des réactions dans d'autres provinces, comme le premier ministre Wapkinou du Manitoba.
Monsieur Legault est quelqu'un qui a mis son marque dans la politique au Québec et puis ici au Canada.
De son côté, le premier ministre fédéral Mark Carney a souligné que François Legault a consacré des décennies à la prospérité du Québec.
Alors une dernière chose, Nadi, quelle sera la suite des événements?
Eh bien, le départ de François Legault provoque une course à sa succession, mais la coalition Avenir Québec doit d'abord définir les règles de cette course. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'une première pour le parti que François Legault a lui-même fondée il y a 15 ans.
Ce sont des images, des vidéos qui circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes présentés comme des Africains qui combattent aux côtés de l'armée russe. Des images très dures, Mathieu.
Oui, ce sont des images glaçantes. Dans une première vidéo, un homme qui dit s'appeler Francis a le regard terrifié. Sur son torse, on a fixé une mine anti-char. Celui qui filme l'insulte, le menace et lui ordonne d'ouvrir, c'est-à-dire de courir vers les lignes ukrainiennes pour permettre un assaut russe. Sur une autre vidéo, on peut voir dans une forêt enneigée des hommes entonner un chant militaire ougandais. Celui qui les filme les désigne comme des jetables. Notre journaliste Carole Valade a interrogé le chercheur Thierry Vircoulon, auteur d'une note sur la politique russe de recrutement en Afrique.
Au cours de notre étude, on a mis en évidence le fait que très souvent, ils étaient dans des unités qui étaient envoyées en première ligne dans les zones les plus dangereuses, souvent pour détecter les positions ukrainiennes. Et donc, c'est sans doute ce que veut dire ce commentaire de jetable, puisque du coup, le taux de décès est élevé dans ces unités, puisqu'elles participent aux opérations les plus dangereuses.
Le chercheur Thierry Vircolon, donc à l'instant. Et puis, il y a aussi d'autres vidéos dans lesquelles on entend certains de ces hommes s'exprimer.
Oui, on peut y entendre des personnes noires en treillis demandant à être rapatriées dans leur pays d'origine. Pour Thierry Vircolon, ces vidéos servent un double intérêt.
L'intérêt, c'est de révéler qu'il y a des mercenaires dans l'armée russe. Le deuxième intérêt, c'est contrer le narratif russe qui met en avant le fait que la Russie est aux côtés des pays africains pour les aider à lutter contre le néocolonialisme et pour leur développement.
Et d'après l'Ukraine, entre 3 et 4 000 Africains combattraient dans les rangs de l'armée russe.
Les suites à présent du drame qui s'est joué en Suisse la nuit du réveillon de Nouvel An. Le patron du Constellation à Crans-Montana est finalement en détention préventive. Après l'incendie du bar qui a fait 40 morts et 116 blessés, la justice valaisanne a estimé lundi dernier qu'il existait bien un risque de fuite, Pierron.
Le fait que les époux Moretti soient restés libres près de 10 jours après l'incendie de leur établissement a beaucoup surpris, pour ne pas dire plus. Désormais, c'est corrigé, Jacques Moretti est bel et bien en prison préventive et son épouse Jessica est placée sous mesure de substitution. Elle n'a pas le droit de quitter la Suisse, elle a dû remettre ses papiers d'identité et doit se présenter chaque jour au poste de police. Le ministère public valaisan justifie finalement ces mesures par un risque de fuite avéré.
Alors les propriétaires français du bar sont toujours présumés innocents. Pour l'instant, Pierron, ils sont poursuivis pour homicide par négligence.
Une qualification qui pourrait naturellement changer en fonction des résultats de l'enquête. On sait déjà, la commune l'a reconnu, que les contrôles de sécurité incendie ont été déficients. Et puis, lors d'une audition de police, dont les procès-verbaux ont fuité dans les médias, Jacques Moretti a expliqué qu'il avait lui-même installé la mousse acoustique qu'il avait achetée dans une grande surface de bricolage. Cette fameuse mousse qui, selon les premiers éléments de l'enquête, a pris feu suite à un contact avec une bougie incandescente.
Et puis, il y a aussi la question des issues de secours.
Oui, car plusieurs témoins qui ont réussi à fuir du sous-sol en feu par l'escalier ont déclaré à la police n'avoir vu ni extincteur ni issue de secours en bas, ce qui contredit les dires du patron du Constellation. C'est évidemment un point central que la justice va devoir élucider, car s'il est démontré que le prévenu était conscient du danger encouru en cas d'incendie, la nature de la responsabilité sera différente, sans oublier celle potentielle de la commune pour ses contrôles déficients.
L'accent des autres.
Il n'y aura aucun bovin au Salon de l'agriculture de Paris qui s'ouvre dans un bon mois. C'est une première depuis plus de 60 ans. La faute à la dermatose nodulaire contagieuse. Dans le Vercors, la décision avait en fait déjà été prise le mois dernier. Avant Noël, on savait déjà que la Villard de cette race bovine de la région n'irait pas à Paris. Pauline Guillot est installée à Lens-en-Vercors depuis un an maintenant. Elle est à la tête d'un troupeau de 35 bêtes. C'est une habituée du Salon. C'est Villard aussi. Mais cette année, ces vaches, donc, resteront à la maison. Anne Bonnemassou Carrère s'est rendue dans l'exploitation de Pauline Guillot.
Dans l'étable, Roudoudou et Génoise ruminent tranquillement. Cette année, pas de salon pour les villardes de Pauline.
Le jeu n'en valait pas la chandelle, le risque était trop important pour notre race.
La chef d'exploitation approuve la décision du salon. Pour la race villarde, le choix a été fait dès décembre 2025.
Parce que le cheptel est très petit, à peu près 500 femelles, dont plus de 80% sur le territoire du Vercors. Donc on avait peur de ramener la maladie et que ça contamine tout le Vercors et que ça décime la race villarde.
Pauline n'amène donc pas de vache, mais elle sera tout de même présente au salon. Elle en est convaincue, on peut présenter une race bovine sans exposer de spécimens.
Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur des ateliers pédagogiques et même des vidéos de présentation. Et du coup, le but, c'est d'arriver à montrer le Vercors et notre race aux visiteurs qui seront là.
On ne va pas tout vous révéler. Il faut garder la surprise sur quelques aspects du stand. Mais Pauline accepte de nous dévoiler quelques ateliers.
Très basiquement, il y a déjà arrivé à la reconnaître. Après, il y a aussi montré les produits qu'on fait avec le lait de nos villardes et donc la qualité de lait qu'elles sont capables de produire. et puis aussi faire découvrir le territoire dans lequel elle vit. Donc c'est vraiment essayer de faire voir l'ensemble qui tourne autour de la villa.
L'éleveuse ne se voile pas la face. Sans les vaches, le Salon international de l'agriculture perd de son attrait. On l'a déjà vu cet automne en Isère lors de la foire de Beaucroissant. Sans bovins ni chevaux, à cause de la dermatose nodulaire contagieuse, il y a eu moins de monde. C'est le risque qu'on cède, Pauline.
Faut voir le côté positif en espérant que les autres animaux arrivent à s'en sortir. Et puis nous, on sera quand même présents avec notre fromage et on espère bien vendre. Et avoir aussi des échanges très intéressants avec les visiteurs.
Raconter le quotidien de l'élevage, le soin des bêtes, mais aussi faire connaître ses galères de chef d'entreprise. Pauline réserve ce sujet aux responsables politiques qu'elle espère croiser au salon.
L'une des problématiques qu'on a aussi sur le Vercors, c'est la reprise des fermes et puis aussi tout ce qui est administratif avec les normes, la lenteur pour faire les papiers pour l'installation, c'est très long. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut en décourager certains. C'est un sujet qui est pour moi est important, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être simplifié pour permettre d'attirer plus dans notre métier.
Pauline Guillot sera présente sur le salon pour le premier week-end de l'événement.
Et ce sera à partir du 21 février prochain. C'était un reportage d'Anna Bonmassou-Carrère pour Ici Isère. La dermatose nodulaire contagieuse, mais aussi le Mercosur, le monde agricole fait face à plusieurs difficultés en ce moment. Les agriculteurs ont une nouvelle fois dénoncé l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur cette semaine, notamment à l'aéroport de Bruxelles National. Mais en Belgique, ils dénoncent aussi la volonté du gouvernement wallon d'imposer de nouvelles règles environnementales, Jacques.
Oui, parce que le ministre wallon de la Santé a pour projet d'interdire l'utilisation de pesticides et de produits phytosanitaires à proximité des zones de captage d'eau, et ceci pour éviter des contaminations. Pour les agriculteurs, c'est la goutte qui fait déborder un vase déjà bien rempli.
Moi, toutes mes terres sont dans le captage d'eau, donc le ministre n'est pas trop malin avec ce qu'il veut faire, donc ne plus cultiver dans les zones de captage d'eau, donc ça veut dire que ne plus rien faire, vivre dans mourir d'eau fraîche comme les écolos ont voulu faire, vivre de petites fleurs, on verra bien.
Une délégation a été reçue par le gouvernement wallon. Si la santé publique et la protection des nappes restent prioritaires, le ministre s'est dit ouvert au dialogue, prêt à rechercher avec les cultivateurs des alternatives techniques et économiques à l'utilisation de ces produits.
Alors les agriculteurs se sont aussi, on l'a dit, à nouveau mobilisés contre l'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, au risque parfois, Jacques, d'être privés de leur outil de travail.
Et c'est ce qui est arrivé à Aurélien, un agriculteur du Hainaut qui a déversé plusieurs tonnes de pommes de terre sur la Grand Place de Bruxelles. Une action symbolique pour attirer l'attention sur les difficultés du monde agricole, mais une action interdite qui l'a conduit une nuit en détention avec une privation de son tracteur, de sa remorque et de nombreux frais. Qu'à cela ne tienne, une fois libéré, sac de pommes de terre à la main, Aurélien s'est rendu chez le roi avec son épouse.
On aimerait bien lui remettre symboliquement encore. On souhaite vraiment rencontrer son représentant ou sa majesté pour pouvoir témoigner de notre action tout à fait pacifiquement. Et voilà, et s'il y a une grâce à demander, on lui demandera grâce donc à sa majesté.
Au niveau du message politique, on a déjà essayé depuis longtemps. Et donc on voulait symboliquement offrir un cadeau au roi et pouvoir porter ce message-là d'une façon ou d'une autre.
Le couple sera finalement reçu par l'entourage du roi auquel il a remis le précieux sac de pommes de terre avant d'enfin récupérer son tracteur. Une histoire qui a suscité un élan de solidarité puisqu'une cagnotte a permis de rassembler quelques dizaines de milliers d'euros pour venir en aide à cet agriculteur.
Jacques Crémer, c'est la RTBF pour refermer le rendez-vous de cette semaine. C'est Pierre Anchoffat que vous retrouverez la semaine prochaine pour l'Action des Autres. Merci d'avoir été là et à très bientôt en compagnie des médias francophones publics.
Vous écoutez Ici.
Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur Terre. Elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère. Elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée. Elle est pas fut-fut, ou elle est pathétique. L'aime pas tout métique. Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire. Elle est pas risseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA. Elle a qu'à s'envoler. Léa, les parisiennes. Elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste. Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle l'a pas volé, elle est pas zinchote, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas sable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, ou elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable, et ça je voulais papa déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne. Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. À gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Notre machine à remonter le temps vient de faire un stop en 1997 pour retrouver Gaëtan Roussel et ses compères de Louise Attaque qui nous dressaient, souvenez-vous, le portrait d'une certaine Léa, un souvenir signé ici.
Ici, dès 6h,
François-Xavier Canova,
Valentine Letès.
Bienvenue à bord en ce début de week-end avec la capitainerie. Comprenez votre équipe du samedi qui est là pour vous ce matin. Stéphane à la rédaction en chef, Basile à la technique, au standard, c'est Dylan. Et pour l'actualité, je suis très heureux de la retrouver en 2026, Valentine Letès. Bonjour Valentine.
Bonjour François-Xavier, bonne année du coup.
Bonne année à vous, ma chère Valentine.
On a encore le temps, on a le droit jusqu'à fin janvier.
Exactement, donc on y va. Dans l'actu Valentine ce matin, le Premier ministre propose sa nouvelle version du budget.
Le pouvoir d'achat, logement, impôt, on vous détaille ce matin ce texte de compromis signé Sébastien Lecornu.
On en parle dans quelques instants.
Ici.
Et